travailleuses, travailleurs, camarades et amis. D'abord et avant tout, je veux moi aussi rendre hommage, au nom des camarades de lutte ouvrière, aux ouvriers de l'usine de PSA Aulnay, qui sont donc en grève totale, depuis maintenant 5 semaines, pour ne pas être mis à la porte comme des malpropres et pour avoir la garantie d'un CDI. Pour casser cette grève, la direction a utilisé la provocation. Elle a essayé de faire passer les grévistes pour des casseurs. Elle a mis l'usine en lock-out. Elle a fait venir des vigiles. Elle a mis en œuvre une politique de répression systématique. Et d'ores et déjà, elle a engagé une procédure de licenciement pour 6 de ses travailleurs grévistes. Alors oui, les ouvriers d'Aulnay qui se battent pour préserver leur emploi et leur salaire ont fort à faire. Mais à ce jour, leur grève tient bon. Certains ont voulu discréditer cette grève parce qu'elle est minoritaire. Oui, la grève est minoritaire. Mais au nombre qu'ils sont, et déterminés comme ils sont, ils ont réussi, malgré les manœuvres et les provocations de la direction, à emporter la sympathie et le soutien actif et passif de bien d'autres travailleurs dans l'usine. Les grévistes disent tout haut ce que pensent tout bas bien des travailleurs et bien des non-grévistes. Et si les non-grévistes pointent à heure dite en tenue de boulot, ce n'est pas pour autant qu'ils se mettent au travail. Et le fait est que depuis 5 semaines maintenant, la grève a complètement paralysé la production. La direction de PSA a donc du souci à se faire. Et elle a d'autant plus de soucis à se faire qu'elle n'a plus à faire face à une seule grève, mais à 2 grèves. Parce que depuis 8 jours, l'usine LIR, qui fournit en siège l'usine PSA de Poissy, s'est elle aussi mise en grève. L'usine PSA de Poissy a donc monté 4000 voitures sans siège. Et sauf à lancer un nouveau concept de véhicule, sans siège donc, eh bien toutes ces voitures attendent sur le parking et elles menacent de bloquer complètement la production. Alors, la direction n'est peut-être pas encore aux abois, mais elle a déjà dû ravaler sa morgue, changer de ton, et c'est déjà cela. Si je veux rendre hommage à cette grève, c'est aussi parce qu'en se battant pour leur emploi et leur salaire, les travailleurs de PSA Aulnay se battent pour une cause qui nous concerne tous. Combattre les licenciements, se battre pour l'emploi n'a rien d'un objectif égoïste ou corporatiste. Tous les travailleurs y ont intérêt. Car nous sommes tous, directement ou indirectement, victimes du chômage. Le chômage est bien sûr un drame pour les chômeurs, mais il pèse aussi sur ceux qui ont un emploi. Qui ne s'est pas entendu dire par son patron « Si ça ne te va pas, il y en a 10 qui attendent derrière la porte ». Et plus largement, le chômage est un fléau pour toute la société. Quel peut être l'avenir d'une société qui condamne 25% de sa jeunesse à l'inactivité ? 50% même dans certaines cités de quartiers populaires. Est-ce qu'une société qui condamne les uns à s'épuiser au travail pendant que les autres, en cherchant désespérément, peut tourner rond ? Et une société où l'on condamne des millions de personnes au petit boulot, à la misère, pendant qu'une infime minorité nage dans les millions, ne peut que secréter toujours plus de violence. Le chômage, les inégalités, l'exploitation forment le terreau pour l'individualisme, pour la délinquance, pour l'insécurité, pour le racisme. Voilà toutes les conséquences du chômage. Et personne parmi les classes populaires ne peut y échapper, pas même ceux qui ont encore un emploi et pas même ceux qui ont encore un bon salaire. Alors, le combat des travailleurs de Peugeot, mais aussi ceux de Lear, de Renault, de Gouilleur, de Sanofi, de tous ceux qui se battent aujourd'hui contre le chômage ou pour leur salaire, est un combat légitime, un combat qui va dans le sens des intérêts de tous et un combat qui doit aussi devenir celui de tous. Cette semaine, Maurice Taylor, le PDG de l'entreprise Titan, qui avait proposé il y a 3 ans de reprendre une partie de l'activité de l'usine Goodyear d'Amiens, a lâché son venin contre les travailleurs dans une lettre adressée à Montebourg. Dans cette lettre ordurière, il accuse les salariés de Goodyear d'être des fainéants et il reproche à Montebourg d'avoir, je cite, « laissé les barjots du syndicat communiste détruire les emplois les mieux rémunérés ». Ce monsieur Taylor est sans doute plus caricatural, plus outrancier, plus provocateur que bien des grands patrons, mais il est au bout du compte bien représentatif. Parce qu'il n'a pas fallu attendre ce titan de la pensée patronale pour que les syndicalistes soient accusés de fermer des usines. Des patrons, des commentateurs, des politiques bien de chez nous l'ont dit ou l'ont laissé entendre. Combien de fois les grévistes de PSA et les salariés de Goodyear ont-ils été accusés d'être jusqu'au boutistes ou irresponsables? Alors oui, la propagande patronale n'a pas de borne. Mais l'enjeu de cette propagande dépasse les travailleurs de PSA ou de Goodyear. Il s'agit en fait d'un plan d'attaque bien plus général. Il s'agit d'un véritable plan de guerre contre tous les travailleurs pour qu'ils acceptent dans cette période de crise des reculs historiques. Au quotidien, il faut se battre pour ne pas faire d'heures supplémentaires gratuitement. Il faut se battre contre la réduction des pauses, contre l'augmentation de la charge de travail. Dans les entreprises, la lutte de classe est permanente. Cela n'a rien de nouveau. Mais avec la crise, les patrons sont passés à la vitesse supérieure. Ils sont de plus en plus agressifs parce que les profits n'augmentent plus comme avant et parce que pour certains même, le gâteau se réduit un petit peu. Alors, de partout, dans toutes les entreprises, le patronat cherche à revenir sur les conditions de travail. Il veut revenir sur les salaires, sur la durée de travail, sur la flexibilité, sur les effectifs, sur la mobilité. De partout, il est question d'accords de compétitivité, de performance. Et ces sacrifices vont être imposés d'autant plus systématiquement que le gouvernement a décidé de transposer dans une loi les accords de flexibilité que le MEDEF et la CFDT, la CGC et la CFTC viennent de signer. Eh bien, ce sont des accords honteux et c'est un projet de loi honteux. Avec cette loi, le patronat, qui n'avait déjà pas beaucoup de contraintes, en aura encore moins. Il pourra licencier plus vite, il pourra licencier moins cher, il pourra aussi baisser le temps de travail et surtout, il pourra baisser les salaires en fonction de ses affaires. Il pourra imposer la mobilité. S'il n'y a pas de travail sur un site, les ouvriers devront faire 20, 50 km pour aller travailler sur un autre. La loi que le gouvernement prépare va généraliser et légaliser le chantage patronal. Et tout ça pourquoi ? Pour soi-disant sauver les emplois. Eh bien, c'est un mensonge. On l'a vu avec Continental. Les travailleurs de l'usine de Clairoy, qui avaient accepté des reculs sans précédent, ont tous été licenciés un an après. Aujourd'hui, Continental est l'une des firmes les plus profitables d'Allemagne. Mais la grande majorité des travailleurs de Clairoy, eux, sont toujours sur le carreau. Et puis, prenez l'accord que Renault veut imposer. La direction de Renault explique qu'en contrepartie des sacrifices faits par les ouvriers, l'entreprise s'engage à ce qu'il n'y ait pas de plan social. Il n'y aura peut-être pas de plan social, mais la suppression de quelques 8000 postes est déjà prévue par des départs en retraite et par d'autres départs volontaires. Alors qu'est-ce que cela change pour l'emploi ? Tous les sacrifices que le patronat veut imposer aux travailleurs ne serviront pas à sauver les emplois. Ils font partie d'un plan de guerre qui consiste à grossir les profits, à gagner en rentabilité, à aggraver l'exploitation. Sarkozy avait trompé les travailleurs en leur faisant croire au « travailler plus pour gagner plus ». Mais le gouvernement Hollande va faire pire, parce qu'avec cette loi qu'il est en train de nous concocter, il va imposer aux travailleurs de travailler plus pour gagner moins. Alors le patronat en avait rêvé et Hollande va le faire. Alors non, ce ne sont pas des amis que nous avons au gouvernement. Ceux que nous avons au gouvernement, ce sont des ennemis. Il n'y a pas de quoi s'en décourager, il n'y a pas de quoi baisser les bras. Mais il faut regarder la réalité en face. Ces gens-là ne sont pas de notre côté. Le gouvernement, comme le patronat, nous dit qu'il faut attendre des jours meilleurs parce que c'est la crise. Oui, c'est la crise, indiscutablement. Mais faut-il toujours que ce soit les travailleurs, les chômeurs, les plus pauvres qui la payent ? Pour justifier les sacrifices demandés aux travailleurs, on nous oppose toujours les petites entreprises en difficulté. Oui, il y a bien des petites entreprises qui sont étranglées par cette crise. Mais elles sont étranglées par les méventes, par les banques, par leurs donneurs d'ordre. Ce sont les grands capitalistes qui chaque jour resserrent le garrot autour de leur cou. Car ces grands groupes n'exploitent pas seulement leurs propres travailleurs. C'est toute l'économie qu'ils dominent et c'est toute l'économie qu'ils mettent en coupe réglée. Alors, il faut prendre le problème par ce bout-là. Il faut arrêter de se cacher derrière les petites entreprises pour ne rien faire. Oui, il faut faire payer le grand patronat. C'est aux plus riches, aux gros actionnaires et aux grands groupes de payer les dégâts de la crise. Et eux, ils le peuvent. Ils le peuvent parce qu'ils tirent très bien leur épingle du jeu. Les premiers résultats des entreprises du CAC 40 sont tombés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous ces grands groupes sont loin de la faillite. Total jubile, avec plus de 12 milliards de profits. Sanofi, avec 8 milliards. L'Oréal, avec 3 milliards. Michelin, avec 2,4 milliards. Le licencieur Goodyear gagne également de l'argent, comme Renault, qui n'a pas pu dissimuler ses 1,7 milliard de profits. Quant à PSA et ArcelorMittal, s'ils ont pu annoncer des pertes catastrophiques pour justifier leur fermeture d'usine, c'est après avoir trafiqué leurs comptes. Sur les 5 milliards de pertes de PSA, il y a 4,7 milliards de dépréciation d'actifs, c'est-à-dire un simple jeu comptable, comme l'explique d'ailleurs le directeur financier de PSA. Et puis, avec cette même manipulation comptable, ArcelorMittal se paye le culot d'afficher une perte nette de 3,7 milliards alors que son activité lui a rapporté 2 milliards. Alors qu'ils se félicitent ou qu'ils fassent semblant de pleurer, les uns comme les autres ont de quoi voir venir. Leurs fortunes sont bien gardées. Les descendants de Peugeot, ceux de Bettencourt, de Pinot, de Michelin ont de beaux jours devant eux, pas les travailleurs qu'ils écrasent avec des salaires toujours plus bas et pas les travailleurs qu'ils condamnent au chômage. À ce propos, je voudrais revenir sur le sacrifice que Ghosn, le PDG de Renault, a soi-disant fait sur son salaire, qui est de 13 millions par an. C'est un marché de dupes, un marché indécent, de la fumisterie. D'abord, ce monsieur ne parle même pas de baisser son salaire. Il ne s'agit que de geler, c'est-à-dire de reporter à plus tard le versement d'une partie de son salaire variable. Et puis, de toute façon, ce monsieur pourrait amputer son salaire de 90%, qui lui en resterait quand même encore 2,3 millions. Alors, tout cela, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux pour faire passer la pilule auprès des travailleurs, pour donner le change. Que les PDG acceptent de limiter leur rémunération extravagante, qu'est-ce que cela va changer pour les travailleurs ? Rien. Le problème des travailleurs, c'est leur salaire à eux. Alors oui, il faut revendiquer que nos salaires augmentent et qu'au moins, ils suivent au même rythme l'inflation. Et que les PDG, que les actionnaires se débrouillent comme ils veulent, mais les profits, eh bien, ils doivent servir à cela. Avant la crise, lorsque les affaires marchaient bien, ce ne sont pas les travailleurs qui se sont enrichis, ce sont les grands actionnaires. Ils ont accumulé des fortunes au travers de l'exploitation. Et cet argent, il existe. Eh bien, il faut qu'il serve aujourd'hui à préserver les emplois, les salaires et les retraites. Il y a 10 mois, l'écrasante majorité des travailleurs a voulu se débarrasser de Sarkozy. Ce n'est pas que Hollande soulevait beaucoup d'enthousiasme, c'est simplement que beaucoup pensaient qu'avec Hollande, cela ne pouvait pas être pire. Eh bien si, avec Hollande, c'est pire. Oh, cela ne tient pas à sa personne, cela ne tient pas à son caractère et même pas à sa politique, qui est ni pire ni meilleure que Sarkozy, puisque ces deux politiques se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Non, cela tient simplement au contexte économique, cela tient à la crise et au fait que dans cette période, le patronat est de plus en plus agressif. Le patronat ne prenait déjà pas beaucoup de gants sous Sarkozy. Mais avec Hollande, il attaque sans aucune retenue. Et le gouvernement, tout socialiste qu'il prétend être, exécute en bon serviteur. C'est le patronat qui décide, qui ordonne, et le gouvernement hollandais obéit. Souvenez-vous comment le gouvernement s'est couché en quelques jours face à l'affront des petits entrepreneurs de l'Internet qui s'étaient baptisés les pigeons. Souvenez-vous aussi comment le gouvernement s'est aplati devant Mittal et comment il a obtempéré aux demandes du MEDEF en accordant 20 milliards de cadeaux au patronat au nom de la compétitivité. Alors le gouvernement est non seulement servile, prêt à justifier toutes les attaques patronales, mais il y va aussi de ses propres attaques. Parce que la politique d'austérité qu'il met en place frappera encore de plein fouet les travailleurs. Le gouvernement a d'ores et déjà prévu un plan de rigueur de 60 milliards sur les 5 prochaines années. C'est un plan d'austérité plus drastique encore que celui promis par la droite. Et plus on s'enfoncera dans la crise, comme c'est le cas, plus les restrictions imposées seront importantes. Les restrictions ont été décidées pour les hôpitaux, pour les collectivités locales. Là, le gouvernement a annoncé la note. Ce sera 1,5 milliard de moins en 2014, 3 milliards de moins en 2015. Combien de communes manqueront d'argent pour restaurer les écoles, pour aider les familles à payer la cantine? Combien de départements réduiront-ils les aides sociales? Combien d'associations seront sacrifiées parce qu'elles n'auront plus les mêmes subventions? Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement a aussi les allocations familiales, les retraites et bien d'autres choses encore en ligne de mire. Qu'est-ce qu'il décidera? La baisse des allocations familiales? Leur fiscalisation? Il décidera de repousser encore l'âge de départ à la retraite? Décidera-t-il d'augmenter les taxes sur le fioul? Le gasoil? Alors tout cela, on ne le sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement cherche à faire des dizaines de milliards de coupes budgétaires et il les prendra quelque part dans notre poche. D'ailleurs, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait en augmentant les impôts et les taxes que tout le monde paye, y compris les plus pauvres. Quant à la TVA, que Hollande avait promis, juré, pendant la campagne qu'il ne l'augmenterait pas, eh bien, elle sera augmentée en janvier 2014. Alors, les riches se plaignent d'avoir à payer plus d'impôts, et on n'entend qu'eux, mais avec l'air de ne pas y toucher, le gouvernement fait les poches des classes populaires aussi bien que ne le faisait Sarkozy. Et cette politique d'austérité va aggraver le quotidien de tous, car elle s'ajoute à l'augmentation du coût de la vie. Tous les prix flambent. Mois après mois, il devient de plus en plus difficile de faire le plein de carburant, de remplir les caddies au supermarché, de payer le loyer et toutes les factures. Et puis, s'il y a un domaine où il était facile pour le gouvernement de faire un geste pour les travailleurs, c'est celui de la fonction publique, parce que c'est lui le patron. Cette semaine, on a appris que le gouvernement allait revenir sur le jour de carence sur les arrêts maladie que Sarkozy avait instauré. C'est le moins qu'il pouvait faire. Mais ce petit geste ne fera pas oublier que cela fait maintenant 3 ans que les salaires de la fonction publique n'ont pas été revalorisés et le gouvernement socialiste a encore décidé de les geler. Et puis pour l'essentiel, le manque de personnel, les non-remplacements, la précarité, il n'y a pas de changement. Alors oui, le style a changé avec Hollande. Il y a moins d'arrogance, mais il y a plus d'hypocrisie, plus de mensonges, plus de tromperies, parce que sous Hollande, comme sous Sarkozy, le gouvernement continue de faire la poche des travailleurs pour faire cadeau sur cadeau au grand patronat. Encore une fois, plus nous nous enfoncerons dans la crise et plus le patronat et le gouvernement attaqueront les conditions de travail et les conditions de vie des travailleurs. Plus la guerre de classe sera violente. Ce qui se passe en Grèce ou en Espagne doit nous servir d'avertissement. Les dirigeants sont prêts à faire reculer les travailleurs des générations en arrière. Ils n'ont pas de limites. Et les seules limites seront celles que les travailleurs leur mettront. Beaucoup se demandent pourquoi les travailleurs ne sont pas encore entrés en lutte. Pourquoi n'y a-t-il pas de mobilisation massive? Eh bien, les raisons ne manquent pas. Bien des travailleurs ont été démoralisés par les trahisons successives de la gauche gouvernementale, de Mitterrand en passant par Jospin, parce qu'à chaque fois qu'elle a gouverné, elle a mené, comme Hollande, une politique anti-ouvrière. Alors, beaucoup aujourd'hui sont déboussolés et finissent par tourner le dos à la politique en se disant « Eh bien, finalement, c'est tous les mêmes. » Et comment ne pas parler ici de la politique des confédérations syndicales ? Je parle des directions centrales des appareils syndicaux, pas des militants syndicalistes qui se démènent comme ils peuvent sur le terrain. En signant les accords de flexibilité et en les justifiant avec les mêmes mots, avec les mêmes arguments que le patronat, la CFDT, la CGC et la CFTC font la politique patronale. Oh, cela fait bien longtemps que ces dirigeants syndicaux ne comptent plus sur les luttes pour faire avancer les intérêts des travailleurs. Mais en cautionnant les attaques patronales et en co-signant des reculs honteux, ils bradent jusqu'à la dignité des travailleurs. C'est une chose de ne pas parvenir à faire reculer le patronat, mais entrer dans son jeu, signer des reculs historiques en faisant croire aux travailleurs que c'est du donnant-donnant, que les efforts sont partagés, c'est une trahison. C'est une trahison matérielle, mais c'est aussi une trahison morale et politique. Quant aux dirigeants de la CGT et de FO, s'ils n'ont pas signé ces accords, ils ont quand même participé à toutes ces négociations. Et ils ont cautionné, à leur façon, la mascarade du dialogue social. Dans une période où chacun sait que le patronat ne fera pas de cadeaux et qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le rapport de force. Alors aujourd'hui, ils s'opposent au projet de loi. Et ça, c'est tant mieux. Mais que font-ils pour préparer les travailleurs aux luttes nécessaires? Nous savons, parce que nous sommes des militants, qu'on ne peut pas déclencher les luttes en appuyant sur un bouton. Mais cela n'empêche pas de les préparer, d'en défendre la nécessité et la perspective. On peut toujours faire de la propagande, contrer et dénoncer les mensonges patronaux. On peut préparer les travailleurs, politiquement et moralement, à s'opposer aux attaques patronales. Les directions syndicales devraient, et elles pourraient le faire. C'est en étant fermes et déterminées elles-mêmes qu'elles pourraient redonner confiance aux travailleurs. Au lieu de cela, les travailleurs sont laissés isolés, livrés à eux-mêmes, et ils se battent comme ils peuvent. Car si cela fait des années qu'il n'y a pas eu de grandes luttes collectives, il y a toujours, ici et là, des luttes, des grèves, des manifestations. Ce sont des luttes d'autant plus difficiles qu'elles sont isolées, menées entreprise par entreprise. Ce sont des luttes où souvent les travailleurs se battent dos au mur, mais ils se battent quand même. Ils se battent parce qu'ils veulent dire non. Parce que s'il y a une chose qu'ils peuvent préserver, c'est leur conscience et leur dignité de classe. Alors ces luttes, elles ne sont pas forcément victorieuses, mais elles sont indispensables et précieuses. Et les travailleurs qui les mènent peuvent être fiers, car la combativité et la conscience qu'ils expriment se transmettront d'exploité en exploité, et elles sont aujourd'hui le gage de voir demain des travailleurs se lever et rendre les coups. Oui, camarades, nous sommes certains que les provocations et les coups que distribuent les dirigeants de cette société capitaliste finiront par faire exploser la colère du monde du travail. Et ce jour-là, nous devrons mettre en avant des objectifs qui en valent la peine, des objectifs qui feront vraiment mal au patronat, qui limiteront son pouvoir de nuisance et qui nous permettront, si nous les atteignons, de préserver enfin notre niveau de vie contre ces attaques. Nous devrons imposer l'interdiction des licenciements, parce qu'en période de crise, licencier des travailleurs est un crime social. Nous devrons imposer l'indexation des salaires sur les prix, c'est-à-dire le fait que les salaires augmentent au même rythme que les prix, pour ne pas voir, comme c'est le cas depuis des années, notre pouvoir d'achat baisser de mois en mois. Et puis, il faut imposer un contrôle sur les entreprises et sur les fortunes des propriétaires. D'où vient leur argent ? Ils nous disent qu'ils ne peuvent pas payer les cotisations sociales et qu'un travailleur coûte cher. Mais combien rapporte-t-il ? Imposer la transparence sur les comptes des entreprises permettrait de mettre au grand jour tout ce qui est volé, non seulement aux travailleurs, au travers de l'exploitation, mais aussi tout ce qui est volé aux consommateurs. mettre en lumière l'exploitation capitaliste. Ce serait un premier pas pour contester le pouvoir de la classe capitaliste. Un premier pas qui permettrait aux travailleurs de prendre conscience qu'ils doivent et qu'ils peuvent eux-mêmes décider. Oui, les travailleurs sont capables de s'organiser pour se défendre, mais ils sont aussi capables de contrôler collectivement l'économie et de la diriger. Et ils le feraient mille fois mieux que les capitalistes, parce que eux, ils ne seraient pas aveuglés par les profits. À l'échelle de toute l'économie, les travailleurs pourraient collectivement recenser les besoins, recenser les ressources et les richesses et les moyens qu'on a de les produire. Et les travailleurs pourraient faire en sorte qu'ils se correspondent, qu'on produise pour satisfaire les besoins de tous. Aujourd'hui, cela est rendu impossible parce qu'entre les besoins et les ressources que l'on a, s'interpose la loi du profit. On ne produit que ce qui rapporte suffisamment. Alors, l'économie capitaliste n'est pas seulement injuste et inégalitaire, c'est aussi un immense gâchis, une organisation folle qui fait qu'aujourd'hui, on est en crise parce qu'on est capable de trop produire. On est en crise et toute la société s'appauvrit parce que le système produit trop de richesses. Eh bien, il n'y a pas d'organisation économique plus aberrante et plus stupide. Il n'y a rien à garder dans cette économie capitaliste. Il faut une transformation profonde de la société qui ne peut se faire qu'en expropriant la bourgeoisie, qu'en réorganisant la production sur des bases collectives, en l'organisant le plus rationnellement et le plus démocratiquement possible dans l'intérêt de toute l'humanité. Cela s'appelle le communisme et nous en restons convaincus, c'est l'avenir du monde. Pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur le Mali. Sarkozy avait eu sa guerre en Libye, Hollande à la sienne au Mali. L'un et l'autre n'ont pas hésité à défendre les intérêts impérialistes de la France, car sous prétexte de faire la guerre aux terroristes, le gouvernement cherche à protéger les intérêts du grand capital dans la région. C'est le fer de la Mauritanie, les ressources pétrolifères découvertes dans le Nord Mali qui intéressent Total. Ce sont les intérêts d'Areva qui exploitent l'uranium au Niger voisin. Et il est certain que ces intérêts-là seront bien gardés. Mais il n'en va pas de même de la population malienne. Elle n'a pas fini de payer cette intervention armée. Quoi qu'en dise Hollande, la guerre est loin d'être terminée. Et rien ne dit que les mêmes bandes armées d'intégristes ne reviendront pas. En fait, ils se sont dispersés dans la nature où ils sont cachés au sein même de la population. Et loin de supprimer l'intégrisme et le terrorisme, l'intervention de l'armée française peut très bien l'alimenter en faisant naître de nouvelles vocations. C'est ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, en Libye. Car le terreau sur lequel se forment ces bandes armées restera. C'est la misère et la rancœur, justement, contre l'impérialisme. L'objectif du gouvernement français est de remettre en selle l'armée malienne. Et cela a déjà commencé. Mais remettre le pouvoir à l'armée malienne, c'est remettre le pouvoir à une autre bande armée qui sait très bien racketter la population, mais qui ne l'a jamais protégée et qui a détalé sans demander son reste quand les djihadistes sont arrivés. En remettant en selle l'armée malienne et en livrant la population à cette armée, la France va lui donner la possibilité de régler ses comptes et de se venger de la population touareg et arabe. On sait déjà qu'à Gao, cette armée a commis toute une série d'exactions. De vengeance en vengeance, les oppositions ethniques vont se renforcer, montant les communautés les unes contre les autres. Alors, quel nouveau massacre se prépare avec la reconquête du Nord Mali par l'armée française et par les armées de pays africains dont aucune n'est réputée pour son respect des populations ? Et c'est vrai, bien sûr, de l'armée française aussi. Que l'on se souvienne tout de même du rôle de l'armée française au Rwanda et de l'aide qu'elle a mis en place hein, vis-à-vis d'une armée qui a été responsable ensuite du génocide en 1994. Et puis rappelons-nous la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan et plus récemment l'intervention en Libye. Alors, nous sommes opposés à cette guerre, non seulement parce qu'il s'agit d'une guerre impérialiste qui est menée, comme toutes les guerres coloniales, pour piller les ressources d'un pays, mais aussi parce qu'en intervenant, les puissances impérialistes sèment des bombes à retardement dont personne ne mesure la portée. Il y a bien sûr de quoi être horrifié par la terreur imposée par les islamistes, par les mains coupées, les lapidations. Mais l'intervention armée française peut rendre la situation pire encore. Il y aura des conséquences en chaîne que personne ne pourra maîtriser. Sur le fond, l'intervention française n'est là que pour continuer à maintenir le même ordre injuste, le pillage, l'exploitation par la France et les puissances impérialistes qui maintiennent l'Afrique dans la misère. Alors le mal en Afrique, la France l'a fait et elle continue de le faire. Faut-il rappeler que la présence militaire de la France dans une partie de l'Afrique, en Côte d'Ivoire, au Tchad, la mise en coupe réglée par les trusts français va de pair avec le maintien de gouvernements et d'appareils d'État corrompus et dictatoriaux, plus soucieux de s'enrichir sur le dos de la population que de la défendre. Alors non, rien de bon ne peut sortir de cette guerre. Non à la guerre au Mali, troupes françaises hors d'Afrique. Nous ne mettrons fin aux inégalités, au sous-développement, aux guerres, à l'oppression et à son cortège d'arriération qui va du sexisme au racisme qu'en luttant contre l'exploitation capitaliste, qu'en transformant la société de fond en comble afin qu'il n'y ait plus de privilèges et de privilégiés. Voilà, camarades, les perspectives des travailleurs, elles sont grandes, elles sont enthousiasmantes. À nous de les faire vivre parmi les travailleurs pour qu'elles deviennent réalité.